France Musique.
Quel scandale! Gesualdo, compositeur assassin. Entrez, monseigneur, entrez au Palazzo San Severo. Laissez-moi fermer cette porte derrière vous. Voilà. Les rues de Naples, vous savez, ne sont plus si sûres qu'elles l'étaient. Alors vraiment, vous voulez visiter les lieux où le prince de Venosa tua son épouse et son amant? Comment, monseigneur? Oh oui, plus de 40 ans au service de la noble famille Gesualdo. Laissez-moi vous précéder et vous éclairer. Tenez, voici le portrait de Don Fabrizio Gesualdo, le père de Don Carlo. Un visage amène, n'est-ce pas? Très différent de son fils et grand amateur de musique. Il lui a tout appris, absolument. Il jouait du luth, il chantait. Don Carlo était un jeune homme studieux, austère. Je voyais bien qu'il aimait la musique et qu'elle lui permettait de s'évader des rigueurs de sa condition. Nous étions encore dans cette vieille bâtisse de Venosa, où moi-même je suis né. Don Fabrizio y avait fondé une accademia. Vous savez, une sorte de comité de beaux esprits, des noms célèbres, monseigneur, des musiciens surtout, mais aussi des poètes. L'immense Torquato Tasso est souvent venu là-bas. Le prince Carlo était encore bien jeune quand il a mis plusieurs de ses poèmes en musique. Une vraie passion déjà. À l'époque, ces beaux messieurs et dames se retrouvaient pour chanter ensemble. Le vieux château entier en résonnait. Ces voix, ces rires, ces applaudissements, ah, la musique, monseigneur, la musique et l'allégresse. On n'entendait que cela à Venosa. Prenez garde, là, ce large corridor sur votre droite, c'est par là. Ce Palazzo San Severo porte bien son nom. Severo, Severo. Pensez bien, monseigneur, que les Gesualdo étaient du royaume de Naples, l'une des plus nobles familles, l'une des plus riches aussi. Quand Don Fabrizio épousa Geronima Borromeo, nièce du pape Pie IV, la maison Gesualdo devint encore plus puissante en occupant des postes importants au Vatican. Avec son épouse, Don Fabrizio avait eu deux fils et deux filles, mais seuls les garçons pouvaient lui succéder. Lorsque Don Luigi, leur fils aîné, mourut d'une mauvaise chute de cheval sans avoir donné d'héritier mâle, Don Fabrizio décida de marier au plus vite Don Carlo à sa cousine, Donna Maria d'Avalos. Quand on a autant de biens et de pouvoirs, monseigneur, c'est important de les transmettre. À 24 ans, Maria d'Avalos était déjà deux fois veuve. Mais quelle beauté! C'était la plus belle femme de Naples. Et comme sa mère était une Gesualdo, c'était un mariage parfait. Célébré ici même, dans ce palais, quelle fête ce fut dans ces pièces pendant plusieurs jours! Le mariage avait été précipité, monseigneur. Nous le savions tous au château. Et Don Carlo n'y avait pas été préparé. Donna Maria impressionnait un peu son cousin, je pense. Très amoureux, mais plus jeune et sans doute moins expérimenté. Mais la vie s'écoula paisiblement quelques années. Un petit garçon naquit, Emanuele. Tout allait bien. Jusqu'à cette nuit du 16 octobre 1590. En pleine nuit, monseigneur, le prince m'a tiré du lit, m'a saisi par l'épaule, m'a ordonné de l'habiller pour la chasse. « Tu verras quelle sorte de chasse je fais !» m'a-t-il crié sans me jeter un regard. Je l'ai habillé, il s'est armé lui-même. Épée, dague, poignard et même une petite arquebuse. Je l'ai suivi dans ce corridor, monseigneur, oui, jusqu'à cette porte ouverte sur l'antichambre de madame. Trois jeunes gens nous attendaient en embuscade, chacun portant hallebarde et arquebuse, aux ordres de monsieur. Don Carlo a enfoncé la porte, hurlé, ils se sont tous précipités, des coups de feu, des cris, traînés, infâmes, des gémissements. Moi, j'étais encore dans l'antichambre, retenant les deux servantes, figées d'horreur. Madame est avec son amant, le duc d'Andria, Don Fabrizio Carafa. Alors il est revenu dans l'antichambre, maculé de sang. Il les a achevés lui-même, voyez-vous, comme des bêtes à l'agonie. Ah oui, c'était son droit, monseigneur. Il lavait son honneur d'époux et de maître, selon nos coutumes. Donna Maria et le duc d'Andria, dans le même lit, sous son propre toit, songez donc. Dans les rues de Naples, la nouvelle s'est répandue comme une vapeur de soufre. Il n'était plus question que du double crime. On en a parlé jusqu'à Rome, au Vatican. J'ai moi-même dû témoigner à l'enquête ordonnée par le vice-roi de Naples. Mais Don Carlo était sous la protection de son oncle, cardinal et homme puissant qu'on considérait même comme Papa Bilé. Qu'a fait Don Carlo? Il a simplement dû se retirer sur ses terres de Gesualdo, non pas pour échapper à la justice du royaume, oh non, non, mais à la vendetta des familles en furie. Et bien sûr, je l'y ai suivi. Thank you. Un an plus tard, son père mourut. Don Carlo devint le chef de la famille Gesualdo et l'un des plus riches propriétaires terriens de toute l'Italie du Sud. En vérité, c'est étrange, mais je crois bien que cette période fut la plus heureuse de sa vie. À 25 ans, son double crime le parait d'un prestige viril. On admirait son tempérament, son sens de l'honneur. Son ami poète, Torquato Tasso, a même évoqué les derniers instants des amants dans Trois sonnets. Et je crois un madrigal aussi. Ah, j'en ai entendu tellement, je ne sais plus bien. Don Carlo composait toujours plus. On peut dire que ce crime a renforcé la réputation du prince compositeur. Sur les conseils de son oncle cardinal, il s'est remarié avec la fille du duc de Ferrare, Eleonora d'Este. Ferrare était un foyer musical extraordinaire, une stimulation idéale pour lui. Et ce mariage a été encore plus spectaculaire que le premier. Eleonora avait 32 ans, soit 5 ans de plus que le prince Don Carlo de Venosa. C'était un mariage de convenance, monseigneur, et autant vous dire qu'on nous trouvait bien moins souvent en visite chez sa fiancée que chez Luzzasco Luzzaschi, premier musicien de cette brillante cour de Ferrare, grand maître de la Bella Maniera, merveilleux organiste, auteur lui-même de fameux madrigaux à cinque voci, comme ceux de Don Carlo. Et c'est lui qui l'encouragea à faire éditer ses deux premiers livres de madrigaux. Une révélation pour Don Carlo. Son mariage, au fond, n'était plus pour lui qu'un événement marginal. Château de Gesualdo, où le prince entreprit la création d'une maison musicale. Il y fit même venir la presse d'un imprimeur napolitain. En 2 ans, il avait déjà édité ses 4 premiers livres de madrigaux à 5 voix, et il pouvait en superviser lui-même l'édition. Je l'ai assisté dans cette œuvre, monseigneur. Je sais avec quelle passion il composait. Mais voyez-vous, les années passant, son tempérament, sombre de nature, l'a conduit davantage encore à s'isoler. Il n'avait pas de tendresse pour sa femme, oh non, bien qu'elle lui donnât un deuxième fils. La musique était devenue pour lui un grand refuge intérieur. Tout un monde de spéculations infinies, de réflexions très fécondes sur la science harmonique, la polyphonie, cet art subtil d'entremêler les voix qu'il maîtrisait au plus haut point. Hélas, 5 ans plus tard, ce deuxième fils mourut. Un désastre pour son mariage avec Donna Leonora, qui divorça et retourna dans sa famille. Ses humeurs se firent plus noires autant que possible. Je savais un peu de musique moi-même, et parfois, Il me faisait lire ses pages. J'en avais des stupeurs. J'ai vu, au fil de ces années, son travail s'affiner à l'extrême. Il étudiait les moindres inflexions des poèmes, toujours très passionné, qu'il avait choisi avec soin, soit chez Le Tasse, soit chez Guarini ou d'autres poètes célèbres. Il voulait en exprimer chaque affetto. Comment ? S'il avait encore un fils ? Oui, monseigneur, oui. Notre prince ne pouvait plus espérer qu'en Don Emmanuel et le fils aîné qu'il avait eu avec sa première femme assassinée. Et Don Emmanuel eut un fils aussi qui, hélas, ne vécut que quelques mois. Et puis 3 ans plus tard, lui aussi mourut d'une mauvaise chute de cheval. Comme jadis son oncle Don Luigi. Il avait à peu près le même âge. Une vraie malédiction, je vous dis, monseigneur. Et Don Carlo le pensait aussi. Comme si le ciel avait voulu lui faire expier ses crimes. J'ai alors vu ses couleurs musicales s'assombrir, se trancher violemment. J'ai vu ses lignes se ponctuer de ruptures abruptes, se tordre en dissonance, en fluctuations fort audacieuses, presque insoutenables, douloureuses parfois, mais d'une douleur chargée de volupté, monseigneur. Thank you. Notre prince n'était nulle part tout à fait à son aise, ni parmi les musiciens de métier, qui n'étaient pas de son rang, ni parmi les aristocrates, qui ne partageaient pas entièrement sa passion. Et plus le sort l'accablait, plus il se retranchait en solitude, s'abîmait en contrition, plus son génie musical l'absorbait. Alors l'expiation est devenue son idée fixe. Voyez-vous, monseigneur, il fit peindre le pardon de Gesualdo par le maître Giovanni Balducci. Il s'était aussi fait pieusement porter une relique du cardinal Borromeo, une de ses sandales de cuir qu'il gardait comme un trésor. Mais surtout, vous l'avez sûrement entendu, il a commencé à multiplier les actes de pénitence. Le prince châtiait sa propre chair avec une satisfaction cruelle plusieurs fois par jour. Ce n'était jamais assez. Il avait besoin de cette douleur. Il s'enfermait dans une pièce du château, en compagnie de quelques très jeunes garçons soigneusement choisis, se dénudait et leur imposait de le flageller jusqu'au sang tous les jours. Ces pratiques n'ont fait qu'aggraver sa malheureuse réputation, monseigneur. De ses deuils, imaginez qu'il a publié ses deux derniers recueils de madrigaux, les 5e et 6e, sans conteste les plus saisissants. Il avait même pris soin de faire réaliser une partition qui présentait les 5 voix en même temps et non seulement les voix séparées, afin de permettre d'en apprécier à la seule lecture les infinies subtilités. Était-ce bien là le fait d'un fou, monseigneur, ou d'un extravagant? Non, la maîtrise de Don Carlo en matière musicale atteignait des sommets inégalés. Et puis, ses œuvres antérieures étaient fréquemment rééditées. On appréciait sa musique. Il composait surtout, en cette même époque, ses Ténébrae responsoria, ses Répons de ténèbres, sa grande œuvre sacrée pour les prières de la Semaine Sainte. Jamais nous n'avions rien entendu de semblable. C'était comme un chiaroscuro mouvant, tout en ombre dramatique et torche vive, un grand cri modulé par des chromatismes inouïs. Jamais la Passion du Christ, les souffrances de la chair, transfigurées par l'espoir de la rédemption, n'avaient été si puissamment chantées. C'était comme si Don Carlo nous livrait là son testament musical et spirituel dans un paroxysme ardent. 47 ans, c'est encore jeune pour mourir, Monseigneur. Ce sont sans doute l'exaspération, l'exténuation des sens auxquels il s'est contraint qui l'ont achevé. Mon plus grand regret est de n'avoir pu l'assister en ses derniers instants et d'ignorer les circonstances précises de sa mort. On m'a rapporté, Monseigneur, et je puis bien le croire, que ce fut à l'issue d'une de ces affreuses séances. Qu'importe. En l'absence d'héritier mâle, ses biens, ses terres vont être dispersés. Mais ces partitions, ce diamant noir qu'il nous laisse, Monseigneur, puisse-t-il ne pas sombrer dans l'oubli? 150 œuvres, c'est un répertoire entier, unique en son genre, à plus d'un titre, n'est-ce pas? Si ces pratiques étaient exceptionnelles? La réforme catholique a pesé lourd sur les âmes, vous savez. Et puis, la violence, les affaires d'honneur, les vendettas. Non, Monseigneur. Dans une autre manière, le Caravage ou Christopher Marlowe, ses contemporains, ont eux aussi eu des vies entourées de mystères, d'ambiguïtés, d'excès, d'étrangetés. Et pourtant, quel talent ils ont eu! Je crois qu'au fond, Don Carlo Gesualdo était simplement un homme bien de notre temps. Oui, je le crois, Monseigneur.
France Musique. Quel scandale, Jérémy Rousseau.
Gesualdo, compositeur assassin, mais compositeur de génie, tel qu'en lui-même, ici, en ses plus beaux madrigaux.
Yeah. Thank you.
Nous avons entendu des extraits des Répons de Ténèbres, des motets, des madrigaux, mais aussi une chanson, une gaillarde, de Carlo Gesualdo. Tous les détails sont à retrouver sur francemusique.fr. C'était « Quel scandale !» Aujourd'hui, Gesualdo, compositeur assassin. Une émission de Jérémy Rousseau, réalisée par Claire Lagarde et préparée par Marion Guillemet, avec la collaboration de Laure-Hélène Dufournier. Prise de son et mixage, Jean-Louis Deloncle, Jason Taous et Tahar Bouklifa. Quel scandale est à réécouter et à podcaster sur francemusique.fr. Au programme demain, Debussy réplique.
À réécouter sur francemusique.fr.